Vous écoutez les programmes du studio Kalangu. Il vient d'être 18h à Niamey, l'heure du journal en français, dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Gamache Mamadou, relaxé, Bana Ibrahim, écopé de 3 mois de prison, dont 2 avec sursis. C'est le verdict du tribunal de grande instance hors classe de Niamey ce matin. Le juge se déclarait incompétent ce matin dans l'affaire qui oppose Omar Salé à la commission électorale de la Fenifoot. Dans une déclaration rendue publique hier à Bilma, le syndicat des chauffeurs transporteurs des migrants de Dirkou dénonce la réduction des frais de transport de Séguédine à Dirkou. Et puis la partie magazine de ce journal s'intéresse à l'inscription du complexe W. Arli Pendjari sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Gamache Mamadou, relaxé pour fait non constitué, Bana Ibrahim écope lui de 3 mois d'emprisonnement, dont 2 avec sursis. Il est condamné pour des commentaires tendant à influencer une décision de justice. C'est le verdict rendu ce matin par le tribunal de grande instance hors classe de Niamey dans l'affaire qui oppose ces 2 activistes au ministère public. Écoutons la réaction de leur avocat, maître Efret Mouloul Boudal, au micro de Habibou Garba.
Gamache est libre à partir d'aujourd'hui, sauf si le parquet s'y oppose, mais je pense qu'il ne s'y opposera pas. Le sieur Bana restera en détention pendant au moins 8 jours, parce qu'il faut qu'il fasse 1 mois ferme, mais c'est son droit de faire appel. On dit que le commentaire d'un acteur de la société civile peut influencer un magistrat assermenté. Je ne suis pas sûr que cela satisfait tout le magistrat, parce que je suis convaincu que le sieur Bana ne peut pas influencer une décision de justice. Je me réjouis simplement du fait que nous avions eu peur à un moment donné, parce que cette question, on voulait l'exploiter comme étant celle qui oppose les magistrats à certains acteurs de la société civile. Mais heureusement, les magistrats ont pris le dessus, parce qu'avec ce délibéré, nous constatons qu'il n'y a pas forcément un acharnement. En tout cas, pas des magistrats. Mais on constate qu'il y a une intention peut-être de faire peur. C'est un procès préventif.
Maître Efret Mouloul Boudal, avocat du Gamache Mamadou et du Bana Ibrahim. Le juge d'instruction s'est déclaré incompétent ce matin suite à la plainte déposée par Omar Salé, l'un des candidats récalés à la présidence de la Fédération nigérienne de football, contre la commission électorale chargée d'organiser ces dites élections. À noter que l'élection du nouveau président de la Fenifoot est prévue le 16 juillet prochain à Maradi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le procès du CINASEB contre le ministère de l'Enseignement primaire relatif à la question de l'évaluation des enseignants contractuels prévu pour ce week-end a eu lieu ce matin à Niamey au Conseil d'État. Après la plaidoirie de la défense, le Conseil d'État a mis le jugement en délibéré pour demain, vendredi 14 juillet 2017. Moukaïla Halidou, secrétaire général du Bénin CINASEB, au micro de Gunguma d'Antony.
Ce matin, nous sommes là au Conseil d'État par rapport à la requête que nous avions introduite sur l'illégalité de l'évaluation que le ministre de l'Enseignement primaire, Dr Marté, voudrait coûte que coûte organiser ce week-end-là pour les enseignants contractuels. Nous venons là de faire le procès. Le délibéré est prévu pour demain, vendredi, Inch'Allah, à partir de 9h. Et nous fondons espoir parce que pour nous, aujourd'hui, il est clair que les avocats qui ont plaidé notre cause ont relevé les contradictions par rapport au respect des dispositions du statut de la fonction publique. Et nous estimons quand même que le Conseil d'État va lire le droit. Le Conseil d'État va effectivement s'en tenir aux dispositions contenues dans le statut de la fonction publique et nous estimons que demain, Inch'Allah, la victoire sera de notre côté.
À Maradi, l'acteur de la société civile Abdou Daneto est en garde à vue au commissariat de police depuis mardi dernier. Cette interpellation fait suite à une plainte que la mairie a déposée contre lui. Pour le président du conseil de ville de Maradi, Daneto aurait dit sur une radio de la place que la ville a vendu illégalement une rue dans le quartier Ali Dansoufo. Ayouba Moussa, président du conseil de ville de Maradi, donne sa version des faits au micro de notre correspondant Mohamed Maman.
Je pense que vous l'avez écouté avec moi à la radio la semaine passée. Monsieur Daneto rentrait parler que la mairie a vendu une ruelle à un commerçant. Donc il a donné les précisions, l'indication, il a appelé la population d'aller voir. Il a même vu des tas de sable qu'on a déjà amené pour construire. Donc effectivement c'est par rapport à ça que la mairie a porté plainte contre ce monsieur pour qu'il nous prouve que la voie était vendue et qui l'a vendue. Moi, je ne connais pas la voie, mais il a dit que c'est à l'Ensofo, vers mes drapeaux. Nos techniciens sont à l'œuvre pour expliquer de quoi il s'agit. Si c'est une vente ou bien c'est des parcelles des gens, de façon que les gens sachent que c'est un lotissement depuis le temps de l'Ablimon ou d'Imoli. Donc c'est un vieux lotissement.
Et vous estimez que cette ruelle n'a pas été vendue?
C'est pas de mon ressort de vendre une ruelle.
À retenir que pour des besoins de l'enquête, le journaliste de la radio Saraounia Maradi, qui a fait l'interview, El Kaouje Maman Lawali, a été auditionné hier et ce matin par la justice. Justement, par rapport à cette arrestation d'Abdou Daneto, le Kodaye, dans une déclaration ce matin, dénonce les circonstances qui entourent l'interpellation d'Abdou Daneto et du journaliste Kaouje Maman Lawali. Aussi, le Kodaye fustige, je cite, « l'instrumentalisation de la justice pour opprimer et terroriser tous ceux qui osent penser différemment ou librement » et demande au parquet de grande instance de Maradi de ne pas se sévir de champ de règlement de compte, plutôt d'exercer sa mission régalienne suivant l'esprit des textes et de la Constitution et de s'occuper des auteurs des actes dénoncés à travers des enquêtes objectives. Fin de citation. 81 migrants bloqués à Séguédine dans le département de Bilma en raison d'un mouvement d'humeur du syndicat des chauffeurs transporteurs des migrants de Dirkou. Les transporteurs dénoncent notamment la réduction des frais de transport de Séguédine à Dirkou qui passe de 250 000 francs à 75 000 francs CFA sur chaque voyage à part le nouveau représentant de l'antenne de l'Organisation internationale des migrants OIM à Dirkou. Les détails avec Issoufou Socrate, secrétaire à l'information du comité de localisation des migrants clandestins morts ou égarés dans le Sahara Clickmess, joint au téléphone par Moussa Hassan.
À l'OIM, il y avait un représentant qui était parti, il s'appelait Douda. À son temps, on transportait les migrants à 250 000 francs jusqu'à Dirkou. Mais après son départ, il y avait un autre qu'on a amené. Lui, il a refusé maintenant au chauffeur de 250 000 francs et il donne à 75 000 francs et 100 litres de carburant. C'est Sigrim à Dirkou. C'est pourquoi les chauffeurs ont rejeté ça et que les migrants sont là stockés à Sigrim. Les chauffeurs de Sigrim aussi, entre-temps, eux aussi, ils ont dit qu'il faut qu'on les associe dans la sauce. Ils ont plus de 45 véhicules là-bas à Sigrim. Pourquoi eux aussi, ils ne vont pas faire le transport? C'est pourquoi donc hier ils se sont manifestés le 11. Ils ont convoqué une réunion extraordinaire en présence du maire Aboubakar Jérôme de Dirkou. Le maire les a calmés un peu. Il y aura une délégation de l'OIM qui va se présenter à Dirkou dans quelques jours, donc de se calmer jusqu'à l'arrivée de la délégation. Les chauffeurs, eux, ils acquittent le nouveau chef d'antenne de Dirkou. Ils disent qu'ils donnent le marché à une seule personne, donc le marché de transport, plus l'achat de vivres, les cordes, bidons et tout ce qu'on peut donner à un migrant. Ils protestent contre ça.
2 morts, 4 blessés, dont un grave, 34 maisons effondrées, 28 ménages affectés et 241 personnes touchées. C'est le bilan des inondations dans le département du Mayaï suite aux fortes précipitations enregistrées dans la nuit du 9 au 10 juillet 2017. Moussa Dantani, préfet du Mayaï, fait le point au micro de Youssoufou Cheibou, notre correspondant sur place.
Au niveau de certaines localités, comme Sarekou, dans la commune rurale de Isson, il y a eu beaucoup de maisons qui se sont effondrées et ça s'est soldé aussi par des blessés et une perte en vie humaine. Il y a eu 2 blessés qui sont actuellement au niveau du CSI de Isson, dont un gravement. Et dans le village de Chakimam, il y a eu aussi effondrement de beaucoup de maisons. 3 personnes blessées, donc parmi ces 3-là, une a rendu l'âme et les 2 autres sont là en train de suivre les soins d'urgence. Les solutions que nous avons prises, c'est notamment dans le recasement des personnes qui sont sans abri. Nous avons donné instruction aux différents maires de prendre des dispositions pour utiliser les classes qui sont là pour accueillir les personnes qui sont sans abri. Et au niveau du comité sur le genre de gestion des catastrophes également, nous avons effectué une mission avec le responsable de sapeur qui est parti également faire ses investigations.
Vous venez d'écouter Moussa Dantani, préfet de Mayayi. Deux jours après la proclamation des résultats du brevet d'études du premier cycle, les candidats admis à l'oral reprennent les épreuves du second groupe ce matin. Écoutons le reportage de Rukayatou Abdraman.
Tôt ce matin, au jury numéro 23 du centre CSP Cours Voltaire, les épreuves du second groupe ont débuté. La présidente du jury, Madame Meg Aissata, nous parle de l'effectif des candidats appelés à reprendre ces épreuves.
Pour les élèves qui reprennent le second groupe, ils sont au total de 136. La matière la plus reprise ici, c'est surtout mathématiques et histoire-géo. Les élèves sont en salle maintenant. Ils ont déjà fini la première épreuve. Après l'épreuve de mathématiques, ils vont revenir le soir pour commencer l'épreuve de PC. Et ensuite, pour la journée de demain encore, ils vont continuer ces examens-là qui finiront bien sûr demain. Tout sera fin prêt, y compris le résultat.
À peine sortie de la salle, cette candidate donne ses impressions.
Au premier groupe, les matières que je n'ai pas pu bien faire, c'est maths, PC, histoire, géo. Et c'est ça que je vais reprendre. Maintenant, on vient de faire maths. Bon, c'était facile. J'ai beaucoup aimé. Il me reste histoire, géo et PC. Histoire, géo, demain, et PC, demain à 8h.
En attendant les résultats globaux prévus dès demain, les candidats restent optimistes.
En partie magazine, à présent, le comité du patrimoine mondial a approuvé le 7 juillet dernier l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO du complexe W.R.L. Pangari. Il s'agit d'une extension transversale respectivement des parcs W du Niger, R.L. du Bénin et Pangari du Burkina Faso. Ce complexe est une des plus vastes réserves naturelles de l'Afrique de l'Ouest. Le parc du W a été créé en 1954 et inscrit en 1996 dans ce répertoire mondial. Quels sont les critères pour être inscrit sur cette liste? Quels seront les avantages pour ces trois pays? Élément de réponse avec Hamissou Malam Garba, chef division air protégé au micro de Habibou Garba.
Pour être classé site du patrimoine mondial, il faut arriver à prouver que ce site a des valeurs qui n'existent nulle part au monde, ou en tout cas, même si elles existent, qu'il y a une certaine différence, ou c'est quand même des valeurs qui sont assez exceptionnelles. Alors le Niger a fait prévaloir ces valeurs, et ça a été désigné depuis 1996. Effectivement, depuis d'ailleurs la création du parc, il y a toujours eu ce qu'on appelle des unités de gestion qui sont basées au niveau de la TAPOA pour pouvoir s'occuper de la conservation de cet espace. Donc par conséquent, ce n'est qu'un aboutissement des efforts consentis. En 2002, nous avons déclaré en fait dans l'espace ce qu'on appelle la régionalité dans la zone du Burkina, du Bénin et du Niger. Les responsables, les autorités sont réunis pour décider à travers une déclaration faite à la TAPOA du Niger, à la Kompienga au Burkina Faso, ensuite à la TAPOA Niger pour consacrer cette régionalité-là. Donc c'est quoi la régionalité? C'est mettre en commun tous nos efforts. Étant entendu que nous sommes une unité écologique et nous ne pouvons pas, nous, conserver, et les autres parties, s'ils ne sont pas bien conservés, c'est peine perdue. Parce que les animaux ne connaissent pas de frontières, et bien donc vous avez beau faire la conservation ou protéger des espèces, c'est si de l'autre côté ils font autre chose, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Alors, cette régionalité-là a permis à nos États de mettre en commun tous leurs efforts. Ça veut dire que maintenant, même la surveillance, on l'a fait ensemble. Et depuis 2012, l'idée a commencé à germer, pourquoi pas étendre ce complexe du W à celui de Arly. Arly, c'est un parc au Burkina Faso, et à la Pendjari, un parc au Bénin. Alors c'est ça qu'on appelle WAP.
Qu'est-ce que ça va changer pour les trois pays comme avantage maintenant qu'ils sont classés?
C'est le renforcement de la bonne gouvernance. Et donc, c'est quand même quelque chose qui nous conforte. Et si d'aventure des situations d'insécurité ou des situations de crise arrivent, bon, il y a des mesures de conservation qui peuvent être prises dans la zone pour pouvoir vraiment arriver à mener les États à mieux gérer les choses. Du point de vue environnemental, ça va renforcer, ça va aider les gestionnaires à mieux gérer. Et aujourd'hui, notre avantage, c'est que les biens que nous avons, les éléphants, les lions, le paysage et tout, c'est pour dire que ça n'appartient plus à nos seuls trois pays, ça appartient à l'humanité.
Voilà, point final de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Au revoir.